Jean-David Chamboredon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur d'Isaïe et le coprésident de France Digital. On va parler avec vous de cet écosystème que vous connaissez bien, de financement d'entreprises innovantes. Nous sommes en 2019, on pourrait peut-être dresser un premier bilan. On en est où de cet écosystème? Est-ce que cet écosystème a réellement, on pourrait dire, explosé en France? Il y a eu vraiment un vivier de nouvelles entreprises qui sont venues bousculer un petit peu l'univers économique?
Très clairement, l'écosystème tech français, il a explosé, parce qu'on a fait x7 en 7 ans, si on regarde le montant levé par les startups françaises. Quand on parle de 2012-2019, on aura fait x7, donc c'est un taux de croissance très élevé. Il y a très clairement, depuis cette période-là, eu une accélération forte suggérée par un certain nombre de choses, l'IPO de Criteo, l'avènement de BlaBlaCar, la BPI France, le label French Tech, etc. etc. Et un enthousiasme débordant de jeunes entrepreneurs qui ont de bonnes idées, qui ont beaucoup d'ambition et qui aujourd'hui trouvent les financements pour avancer.
Alors, l'environnement global, il est favorable puisque aujourd'hui l'argent est entre guillemets pas cher ou vaut rien. Donc lever des fonds, c'est peut-être entre guillemets facile, mais après mener à bien un projet, c'est autre chose.
Oui, très clairement, on est dans une situation où l'alibi historique de l'entrepreneur français qui disait je suis sous-capitalisé par rapport à mes concurrents britanniques, israéliens, américains, et donc je ne peux pas faire une grosse boîte parce que, ou alors il faut que je sois super malin et que je trouve un twist particulier, cet alibi, il a quelque part disparu. Les boîtes les plus prometteuses trouvent l'argent pour se déployer et le sujet devient un sujet d'exécution et un sujet notamment de talent. Est-ce qu'on a les talents pour exécuter des plans ambitieux consistant à finalement créer des leaders européens ou des leaders mondiaux?
Oui, parce qu'on parle du numérique et on sait très bien qu'il y a un déficit justement en termes d'emploi, qu'on doit recruter encore plus d'ingénieurs et qu'on est en sous-effectif de ce côté-là et que donc à un moment donné dans sa croissance, la start-up, même si elle a une hyper-croissance, elle peut être freinée par juste le fait qu'elle manque d'un développeur ou d'autres choses.
Oui, la pénurie de ressources compétentes, elle est à tous les niveaux. Et il y a clairement un chômage négatif dans le digital, hein. Un développeur qui perdrait son job l'après-midi, il en a un autre. Et très clairement, on manque d'ingénieurs, on manque de développeurs, on manque de marketeurs, on manque du X-designer, on manque de product manager, on manque de tout. Et il y a aussi un déficit d'expérience, c'est-à-dire que si on se compare à des écosystèmes plus mûrs comme Londres, comme Tel Aviv, comme San Francisco évidemment, ben on s'aperçoit que les gens qui ont déjà vécu cette hypercroissance et qui savent donc l'exécuter, ben à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Donc nos entrepreneurs, ils apprennent en faisant. Ils le font pour la première fois, si je puis dire.
On a toujours aussi cette question sur les licornes, sur voilà, on aimerait bien, et c'est d'ailleurs l'objet du plan récemment annoncé par Emmanuel Macron, en disant voilà, on demandait aux investisseurs institutionnels, les fameux zinzins, de remettre un peu au pot, 5 milliards, pour qu'on ait encore plus de licornes. Aujourd'hui, si on regarde concrètement, de quelle licorne on parle? En France, vous avez cité Criteo, BlaBlaCar, mais qu'est-ce qu'on a comme licorne aujourd'hui?
Alors, Criteo n'est plus une licorne puisqu'ils sont cotés.
Voilà.
Donc, je ne sais pas quelles sont il y a 6 ou 7 licornes. Alors, il y a des vieilles licornes comme OVH, souvent de privé, et il y a des nouvelles licornes comme BlaBlaCar, Doctolib. Je ne sais plus quelles sont les 2 ou 3 autres qui sont citées comme licornes ou potentielles licornes. Le sujet de la licorne, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on fait des entreprises qui ont un destin de leader ou pas de leader. Parce que dans un cas, elles peuvent peut-être aller en bourse, être pérennisées en tant qu'entreprise indépendante. Dans l'autre cas, elles finiront rachetées par tel ou tel qui consolidera le marché. Et on sait que dans notre secteur, ça va très vite. On parle de cycles qui durent 5, 7, 8 ans. Et donc, ben, construire un leader, il faut arriver à le faire dans cette période-là.
Alors, je disais tout à l'heure que l'argent était pas cher. Ça peut aussi en inciter un certain nombre de se dire, allez, je lève des fonds et puis dans 2-3 ans, je revends ma boîte. Donc, de perdre un petit peu ce côté entrepreneur pour profiter, on va dire, de l'aubaine. Est-ce que vous en avez vu, vous, des dossiers? Vous en voyez quand même tous les jours, vous en recevez tous les jours. Ça peut arriver?
Je ne crois pas que l'entrepreneur qui lance un business sache exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis son ambition initiale, elle peut évoluer dans le temps. Et très très clairement, dans notre secteur en tout cas, si on ne peut pas accrocher une place de numéro 1, numéro 2 mondial ou continental, on est amené naturellement à être consolidé. Donc un entrepreneur qui s'aperçoit qu'effectivement les jeux sont faits, sans doute que le meilleur destin pour son entreprise, c'est qu'elle s'adosse aux leaders établis et qu'il y ait des acquisitions. D'ailleurs, l'écosystème du capital risque français, il n'arrivera à trouver sa pérennité que s'il y a aussi des cessions, des plus-values qui sont elles-mêmes recyclées dans l'écosystème, etc. Si l'argent reste dans les boîtes, qu'elles vont ni en bourse, ni elles sont rachetées, il y a un moment où le système s'asséchera naturellement.
Il y a des sujets aussi de valorisation sur ces levées de fonds. Quand on regarde un petit peu les annonces, moi j'en reçois en tant que média, tous les jours je peux dire j'entends une levée de fonds, alors c'est celui qui lève le plus, le plus gros montant. On oublie derrière ce qui peut être les créations d'emplois ou pas justement. Donc est-ce qu'on n'est pas dans cette période un petit peu facile, trop facile, et que du coup on va accrocher sur la levée de fonds plutôt que de lever sur est-ce que dans 5 ans, 6 ans, les startups qu'on a vues effectivement initialement, elles sont encore là et elles se sont développées?
Alors, il y a un vieux proverbe qui dit « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs hein. ». Donc, très clairement, parmi les entreprises dites « scale-up » qui lèvent des gros tours de table, certaines, peut-être, iront trop vite en besogne, peut-être dépenseront cet argent alors que leur modèle n'est pas solide, peut-être exécuteront mal, et il y aura de la casse. À l'inverse, si on veut créer des champions, il faut donner les moyens à ces futurs champions de se développer. Donc, si on prend le Next 40 là, qui a été annoncé par Cédrico, il est probable que dans cette liste, il y ait des entreprises qui connaissent des difficultés dans les années qui viennent. Mais il est aussi probable que dans cette liste, on trouve des entreprises qui, dans 3-5 ans, auront plusieurs milliers de collaborateurs et une empreinte internationale réelle.
On a parfois, effectivement, entre la bourse, qui ne valorise pas forcément aujourd'hui, d'après certains chefs d'entreprise, leur société et le private equity ou les fonds d'investissement, un décalage, ce qui peut paraître paradoxal. Mais est-ce que effectivement aujourd'hui, il n'y a pas trop de valorisation côté justement financement de start-up?
Un des sujets de la bourse française, c'est qu'effectivement, elle ne connaît pas les mécanismes de valorisation de la tech. Et d'ailleurs, dans les annonces du président Macron, il y a 5 milliards, mais il y a 2 milliards qui vont vraiment dans l'écosystème et 3 milliards qui vont vers des fonds qui auront pour objectif d'investir dans la tech cotée. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut qu'on ait à Paris des gérants qui comprennent comment on valorise une entreprise en hypercroissance. Parce que sur la bourse parisienne, il n'y a aucune entreprise en hypercroissance, pour simplifier. Hein. Rappelez-vous de l'IPO de Facebook en 2012. Tout le monde hurlait à la mort en disant 100 milliards, mais comment ça peut valoir 100 milliards? Ça gagne 1 milliard par an à peine, ou c'était juste break-even, etc. Aujourd'hui, ça vaut 500 milliards. Bon, et on est 7 ans plus tard. Donc, je ne connais pas un gérant parisien qui trouvait que les 100 milliards de Facebook, c'était un prix raisonnable.
Comment vous voyez-vous les choses, l'avenir un peu de cet écosystème? Qu'est-ce qui manque en France pour qu'on, peut-être, on arrive au-delà et qu'enfin, on parlait de ces licornes tout à l'heure, mais en tout cas qu'on voit de vrais, à nouveau, de très belles réussites, qu'on puisse en être fier, comme les Américains sont fiers de ce qu'ils leur GAFA, effectivement, même si aujourd'hui, ils vont peut-être changer d'idée, mais nous, on aurait envie d'avoir les mêmes, sachant qu'on part de la France, on ne part pas des États-Unis.
Oui, alors, les GAFA, ils valent tous des centaines de milliards, et on est peut-être loin de créer des boîtes qui valent des centaines de milliards en France. Maintenant, si on crée une belle série de boîtes qui valent plusieurs milliards, voire 10 milliards, on aura déjà franchi une très grosse étape. Je crois que ce qui manque à l'écosystème français, c'est deux choses. C'est l'expérience, les talents expérimentés internationaux, parce que clairement, on ne peut pas créer des leaders sur Internet en étant franco-français. Donc là, il faut qu'on devienne attractif, il faut qu'on fasse venir des gens qui aujourd'hui habitent à Londres, ou habitent à New York, ou habitent à San Francisco, et qui viennent nous aider à construire des belles boîtes. Et la deuxième chose qui manque, c'est effectivement, en Europe, il y a très peu d'acheteurs dans la tech. Hein. On citera Dassault Systèmes et SAP, puis une fois qu'on a dit ça, on est un peu sec. Et ce qui manque, c'est effectivement un rythme de sortie qui, comme je le disais tout à l'heure, révèle de la plus-value, permet à cette plus-value de se réinvestir, et donc à l'écosystème de se pérenniser. Et ça, c'est une étape qu'on n'a pas encore franchie. Alors, les sorties à plus de 100 millions, avant, on en avait une ou deux par an, maintenant, on en a 8 à 10. Bon, c'est mieux. Mais ce rythme-là, il doit s'accélérer et les montants concernés, ils doivent augmenter.
Le mot de la fin, on dit clairement qu'il n'y a pas assez de femmes dans la tech, que ce soit dans les entreprises, mais également sur les levées de fonds, c'est plus difficile. Aujourd'hui, c'est vraiment un pourcentage infime. Comment ça peut évoluer et vous, quelles sont vos idées pour que on trouve plus de femmes à la fois entrepreneuses et qu'elles puissent lever des fonds plus facilement?
Alors, c'est un long sujet. Isaïe a signé la charte Sista, là, qui a été lancée par des entrepreneuses, sur le thème « Essayons de comprendre ». Parce que la réalité, c'est que le cœur des équipes tech dans une start-up, ce sont des ingénieurs. Et le taux de filles dans les écoles d'ingénieurs, il est plus faible que quand moi je suis sorti d'école d'ingénieurs au milieu des années 80. Donc on a structurellement ce sujet-là. Et puis il y a des choses qu'il faut qu'on mesure. Est-ce que les femmes sont moins financées ou est-ce que globalement il y a, un pourcentage de projets portés par des femmes qui est finalement représentatif du pourcentage de projets financés par les femmes. Et puis il y a un autre sujet, c'est est-ce que le tempérament féminin n'est pas plus conservateur que le comportement masculin et par conséquent le monde du venture étant très attiré par l'hypercroissance, il n'y a pas une sélection faite en disant bah oui mais là cette jeune femme elle est charmante mais elle veut faire un truc modeste, misons sur ce gars-là qui nous vend la lune, bon voilà. Donc il y a tout ça à faire mais on a en tout cas la volonté je pense au sein de l'écosystème, côté investisseur et côté entrepreneur, d'effectivement faire que la place des femmes soit beaucoup moins congrue qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Jean-David Chamboredon d'avoir fait le point avec nous.